France Culture.
Réplique, la République de Weimar, avec Johann Chapoutot. J'avais invité ce matin, pour répliquer à l'historien Johann Chapoutot, un autre historien, Jean-Paul Bled. Celui-ci a dû malheureusement déclarer forfait. Je dialogue donc avec Johann Chapoutot seul, et nous avons du pain sur la planche. Mais je me référerai à Jean-Paul Bled pour qu'il ne soit pas absent de notre débat. Ces précisions étant faites, nous pouvons commencer. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est à Weimar que siégea l'Assemblée qui avait pour mission de dresser le cadre constitutionnel de la République allemande. Comme l'écrit Jean-Paul Bled dans son livre « La République de Weimar », ce choix a une valeur symbolique forte, puisqu'il rattache la Jeune République à la tradition humaniste de Goethe et de Schiller. Et Johann Chapoutot renchérit dans son essai « Les irresponsables », l'Allemagne montrait ainsi au monde son autre visage, celui de la Weltliteratur, des arts et de la philosophie, loin de Berlin et de Potsdam, des casques à pointe et des casernes, l'Allemagne de l'Aufklärung et de la Weimarer classique, non celle du militarisme des défilés au son du fifre et des canons. Tout semblait donc très bien parti, mais l'expérience n'a duré que 14 ans. Les défilés nazis ont mis fin à la République de Weimar. La tradition humaniste de Goethe et de Schiller n'a pas fait le poids devant Hitler. D'où ma question, Johann Chapoutot. Ce dénouement tragique était-il inéluctable?
Alors il était d'autant moins que, vous l'avez rappelé, il y a une autre Allemagne. Et une Allemagne d'ailleurs qui est celle de 1848-49, parce que la République de Weimar en 1919, avec le vote en 6 mois d'une constitution libérale, démocratique, parlementaire, et l'aboutissement d'un cycle révolutionnaire qui a été avorté en 1849, hein, 70 ans après donc, cet autre chemin particulier d'Allemagne qui était celui de Kant, qui était celui de la Weltliteratur, de la Weimarer classique, de l'humanisme et de l'universalisme, et c'est ça qui s'est concrétisé à Weimar. Et contrairement à l'idée que l'on a souvent, la République de Weimar est une république saine et forte, on dirait aujourd'hui résiliente, puisque de fait, elle a survécu au traité de Versailles, à une occupation illégale en 1923, à l'hyperinflation, à une quasi-guerre civile permanente, à la guerre extérieure jusqu'en 1923. Et il a fallu ce choc exogène monstrueux, hein, terrible, qui a été celui de la grande crise économique, financière, puis économique et sociale, dont l'Allemagne a été la première victime avec les États-Unis, puisque la crise est partie des États-Unis et l'Allemagne était sous perfusion de capitaux américains. Donc rien n'était inéluctable et à vrai dire, les contemporains voyaient l'avenir, et c'est toujours un souci de l'historien que de voir le champ des possibles ouvert, hein, comme les contemporains, le champ des possibles indiquait plutôt une réussite de l'expérience démocratique en Allemagne.
D'ailleurs, Jean-Paul Bled, dans son livre « La République de Weimar », dit que sous la conduite de Gustav Stresemann, qui a été ministre des Affaires étrangères de 1923 à 1929, l'année de sa mort, l'Allemagne a retrouvé progressivement sa place dans le concert européen. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous dites la crise de 29, mais votre livre, vous l'intitulez « Les irresponsables ». Les irresponsables, ce sont les responsables, en réalité.
Absolument.
Donc, pourquoi Stresemann n'a-t-il pas eu de successeur digne de lui?
Alors, il y a une conjonction chronologique terrible, hein, une concomitance. À l'automne 1929, vous avez cette crise qui se développe à partir des États-Unis, qui touche l'Allemagne, puisque ça vient la purger des capitaux et des crédits extérieurs, américains et britanniques. Et vous avez le décès de Gustav Stresemann, qui était jeune, hein, il avait moins de 60 ans. Et Gustav Stresemann, grand ministre des Affaires étrangères, avec Briand, prix Nobel de la paix en 1926, Locarno, la SDN, il a été aussi le chancelier qui a sauvé l'Allemagne en 1923, puisqu'en 1923, vous avez l'hyperinflation, l'occupation étrangère, des putschs communistes et le putsch nazi en Bavière. Un immense chancelier. Et vous avez cette concomitance malheureuse. Encore une fois, il a fallu un choc exogène terrible qui n'avait rien à voir avec l'histoire allemande en réalité, qui est le fait qu'on a retiré le tapis sous les pieds de l'économie allemande à l'automne 1929. Mais en amont de cela, il y avait tout de même une décision qui avait été prise par ces fameux responsables, par antiphrase, hein, qui sont en réalité des irresponsables de désinvolture et d'amateurisme, qui avaient décidé dès 1928-1929 de mettre fin à l'expérience démocratique allemande.
C'était qui ces gens-là?
C'est l'entourage du président von Hindenburg, qui a été élu en 1925. Hein, je reviens sur les circonstances de son élection, qui s'est jouée à peu de choses, au fond, hein, face à un centriste, qui était un républicain, respectueux de la Constitution. Et Hindenburg a eu la chance de gouverner pendant 3 ans avec des majorités de droite. Et puis, quand la gauche a gagné en majorité relative, en 1928, il a hésité pendant 3 semaines à nommer un chancelier social-démocrate, ce qui était la logique constitutionnelle. Et il s'est promis qu'on n'y reprendrait plus. Et la décision a été prise dès 1928 de mettre fin à la démocratie libérale et parlementaire en ne respectant plus le résultat des élections. C'est-à-dire, la décision a été prise de nommer des gouvernements de droite qui gouverneraient sans le Reichstag, sans le Parlement, mais sur ordonnance présidentielle d'exception.
J'en reviens tout de suite à une question importante, parce que vous mettez en cause une droite allemande qui n'a pas pris la mesure du danger de Hitler, puisque dès 1930, les nazis ont fait un score considérable aux élections législatives. Mais il me semble que vous oubliez le rôle des communistes. Parce que l'une des leçons qu'on peut tirer de Weimar, c'est celle-là des communistes qui s'acharnaient contre les sociotraîtres et qui ne se souciait beaucoup moins des nazis. D'ailleurs, j'en parle maintenant parce que vous avez évoqué cette élection, 1925, élection présidentielle. Hindenburg se présente au deuxième tour, je crois.
Au deuxième tour, absolument.
Parce qu'on avait le droit. Et il y a un candidat, Wilhelm Marx. Oui. Les socialistes votent pour lui. Oui. Votent pour lui. Et les communistes maintiennent oui. leur candidat. Ernst Thälmann, donc Hindenburg est élu. Et il y a une formule qui circule après cette élection, Hindenburg par la grâce de Thälmann. Et on a vu cela assez longtemps, c'est-à-dire des communistes, en effet, qui en veulent davantage aux capitalistes libéraux qu'aux nazis. C'est le cas de Clara Zetkin, et ça vous la citez assez longuement, encore en 1932. Elle est doyenne du Reichstag. Donc à la rentrée, 30 août 1932, elle présente la séance. Et voici ce qu'elle dit. L'impuissance du Reichstag et la toute-puissance du cabinet présidentiel sont l'expression de la décadence du libéralisme bourgeois qui accompagne nécessairement l'effondrement du mode de production capitaliste. Et elle dit « Je déclare ouverte la nouvelle législature conformément à mon devoir de doyenne de cette assemblée et dans l'espoir qu'en dépit de mon invalidité, je connaîtrai le bonheur d'ouvrir en tant que doyenne le premier congrès de l'Allemagne soviétique. » Elle s'adresse à Göring, qui était le président du Reichstag, et lui demande s'il accepte cette élection. « Jawohl, » répond Göring, et il dit « Mon office de doyenne a donc été rempli et le président du Reichstag, le président élu du Reichstag, va exercer ses fonctions. » Donc on a l'impression que les communistes sont totalement à côté de la plaque. Donc les premiers irresponsables, enfin c'est la question que je vous pose, c'est eux, non ?
Non. La scène que vous citez est intéressante parce qu'elle résume de manière terrible hein, cette fin de la République de Weimar dès août 1932 avec une doyenne d'âge communiste qui cède la parole ensuite au président élu qui est un nazi. Or, le président a été élu, le président du Reichstag, Göring, a été élu par les voix des nazis et par les voix du Zentrum. Hein, puisque c'est la droite et le Zentrum qui ont voté pour lui. Les communistes et les sociodémocrates ont voté, évidemment, contre Göring. Et ce que vous dites est tout à fait juste. En 1925, Thälmann s'est maintenu et c'était une erreur, puisque il aurait fallu se retirer au second tour. Mais par contre, dès 1925, on se rend compte que Hindenburg a pu être élu grâce aux voix d'une partie du Zentrum qui trouvait que Marx était trop à gauche pour eux, notamment de se parraître du Zentrum qui est le BVP, hein, le parti bavarois, hein, l'équivalent de la CDU aujourd'hui, qui a voté pour Hindenburg. Alors, ensuite, quand on parle de la responsabilité de la gauche, on parle de la responsabilité des communistes et également des socialistes qui n'ont pas su s'allier. Parce que lorsqu'on regarde les dernières élections libres de la République de Weimar, le 6 novembre 1932, c'est le bloc marxiste qui est en tête, à 37%. En majorité relative, c'est eux qui ont gagné les élections. Or, ils sont désunis. Ils sont désunis pour plusieurs raisons. D'une part, et vous le dites, vous le rappelez, parce que les communistes ont une ligne stalinienne, d'ultra-gauche, comme on dit à l'époque, ultra-links, de classe contre classe, qui a été confirmée en 1928 par la Troisième Internationale. Et ça, ça implique de combattre ceux qui sont les plus proches de vous, en l'occurrence les sociodémocrates, qui sont susceptibles de capter une partie de l'électorat ouvrier. C'est totalement irresponsable, mais ça s'explique par le fait que, de fait, les communistes ont été victimes depuis 1919 d'une vague de répression vraiment très violente et meurtrière. Hein. 160 morts en janvier 19, 1200 morts en mars 19, 33 morts encore le 1er mai 1929 de la part des sociodémocrates. Et lorsque les nazis percent, vous avez évoqué septembre 32, ensuite vous avez les élections en Prusse, au Landtag de Prusse. En avril 32, les nazis sont à 36%. Là, la direction du KPD, du Parti communiste allemand, se rend compte qu'il est inepte de taper sur les socio-fascistes ou les socio-traîtres plutôt que sur les vrais fascistes, sur les nazis. Et dès lors, il y a une proposition qui est faite à la hiérarchie social-démocrate de la part des communistes de s'allier contre le danger nazi. Et à ce moment-là, ce sont les sociodémocrates qui refusent. Alors, ils avaient des bonnes raisons, ils avaient été insultés à qui mieux pendant des années. Mais de fait, la responsabilité ultime dans le défaut d'alliance pèse au fond sur les sociodémocrates. Par ailleurs, quand bien même ils auraient pu s'allier, répétons-le, le bloc marxiste fait 37%, hein, c'est le bloc majoritaire en novembre 1932. La République de Weimar ne fonctionne plus normalement depuis mars 1930. Depuis mars 1930, la décision a été prise par le cabinet présidentiel et ses ministres de ne plus respecter le résultat des élections. Donc, quand bien même ils auraient été unis et quand bien même ils auraient fait 50% des voix,
il était trop tard.
Le président Hindenburg nommait qui il voulait, en l'occurrence un homme à sa main, comme il le fait depuis 1930. Donc, quand on parle de la responsabilité de la gauche, oui, en partie, d'un point de vue intellectuel et moral. Par contre, d'un point de vue politique, non, puisque de fait, il n'y a plus de fonctionnement parlementaire de la République depuis mars 1930.
Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas chercher la responsabilité en amont, bien plus loin? Et là, je pense à un ouvrage prémonitoire, tout à fait extraordinaire, de Jacques Bainville, « Les conséquences politiques de la paix », 1920. Et quand on le lit, même aujourd'hui, on n'en revient pas. Il montre, dès 1920, que Weimar était fatalement destiné à s'effondrer. Il dit ceci, le traité de Versailles ne désarme pas l'Allemagne, il la désespère. Il montre que les conditions imposées à l'Allemagne alimenteront un nationalisme revanchard et qu'une démocratie instable ne saurait contenir longtemps ce ressentiment. Il écrit textuellement que la paix conclue à Versailles est un armistice de 20 ans. Il a cette phrase, une paix trop douce pour ce qu'elle a de dur. Formule restée célèbre. Pourquoi ? Certes, l'Allemagne est rognée, mais elle est homogène. Elle reste homogène alors qu'il aurait fallu revenir au stade antérieur à l'unification. Ça, c'est sa thèse. Et il a cette phrase aussi, accroupi au milieu de l'Europe comme un animal méchant, l'Allemagne n'a qu'une griffe à étendre pour réunir de nouveau l'îlot de Königsberg. dans ce signe, les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe sont inscrits. Alors, Hitler n'était pas prévisible. Personne ne pouvait prévoir Hitler. Mais ce qu'il était, semble-t-il, c'était précisément la destruction de l'esprit de Weimar par le revanchisme allemand et le malheur de l'Europe. Johann Japoutot.
Oui, vous citez Bainville qui ensuite va réitérer au début des années 30, il va faire un livre intéressant qui s'appelle « L'histoire de deux peuples hein, », oui. En comparaison franco-allemande. C'est un historien très sagace, très littéraire, très intéressant, qui a cependant un petit biais de jugement qui est sa proximité, enfin son adhésion idéologique à l'action française. C'est un germanophobe convaincu. C'est quelqu'un qui considère, comme Charles Maurras, que l'Allemagne est inconciliable avec quoi que ce soit de latin, de grec, de méditerranéen et donc de français. Par ailleurs, le protestantisme versus le catholicisme, enfin tout ça joue dans la lecture de Bainville. Cela dit, ce que vous citez correspond très adéquatement à ce que dit un protestant, pour le coup, John Maynard Keynes, dans les conséquences économique de la paix, voilà, les deux sont réédités par Gallimard, je vois le livre sur votre table. Keynes dit exactement la même chose, le maréchal Foch dit exactement la même chose. L'armistice de 20 ans est une citation peut-être apocryphe prêtée au maréchal Foch. La position française la plus dure, celle de Clémenceau et de ses conseillers proches, Mandel, André Tardieu, le mirobolant, la position de ce noyau-là, c'était, vous l'avez dit, de revenir au stade de pré-unification de 1870. Faire éclater l'Allemagne en trois blocs. La Prusse protestante à l'est, un ouest catholique très proche de la France, Napoléon avait fait la même chose avec les républiques rhénanes, et au sud, un autre bloc catholique autour de la Bavière, du Württemberg et de la Franconie. Faire éclater l'Allemagne en trois. C'était la ligne la plus radicale française qui a été empêchée par qui ? Par Lloyd George, les Britanniques, et par Wilson. Wilson pour faire des affaires et Lloyd George également, mais aussi dans un souci d'équilibre européen qui est la ligne habituelle de la politique britannique pour ne pas avoir une France trop puissante face à une Allemagne éclatée et donc disparue. Effectivement, on arrive à un entre-deux assez désastreux, qui est une fausse paix, c'est une paix léonine ou carthaginoise. Hein. C'est la première fois depuis 1648, depuis qu'on a créé cet ordre westphalien européen des négociations et des congrès, que le vaincu n'est pas associé aux discussions. Or, il y a ce principe des relations internationales qui est « etiam hosti fides servanda ». On doit la bonne foi également à l'ennemi pour le réintégrer précisément au concert des nations et lui montrer que c'est quelqu'un avec qui on peut dialoguer. Là, on a signifié à l'Allemagne des prix Nobel, de la littérature, de la philosophie, que ce n'était pas un partenaire de logos. Voilà, qu'on ne pouvait pas parler avec eux et que dès lors, on allait les exclure du concert des nations à tel point que les plénipotentiaires allemands, qui n'ont de plénipotentiaire que le nom, ont un statut de prisonniers, ils sont gardés par des poilus à baïonnette, et ils sont assignés à résidence derrière des barbelés à l'hôtel des Citernes de Versailles. Et la signature est imposée, quasiment le fusil sur la tempe, puisque on dit clairement en mai 1919, soit vous signez, soit on reprend les combats. Or, l'Allemagne était en pleine démobilisation sur le fondement de la fidesse, sur le fondement de la bonne foi depuis novembre 1918. Donc, effectivement, ce qui a été fait aux Allemands à ce moment-là est une catastrophe. Ce n'est pas que la droite ou l'extrême droite qui le dit. Philipp Scheidemann, qui a proclamé la République, social-démocrate et chancelier, démissionne en juin 1919 en disant que la main qui signera ce traité se dessèche. Un social-démocrate refusait cette infamie.
Oui, alors, mais on peut s'interroger sur les raisons de cette radicalité, de cette brutalité. Sans doute est-ce dû aux horreurs même de cette guerre. Tout le monde avait prévu, d'un côté comme de l'autre, que ça durait quelques semaines. Ça a été 4 années épouvantables. Une guerre industrielle, comme l'a admirablement montré notamment Ernst Jünger, les orages d'acier. Et donc, effectivement, il a fallu un châtiment à la mesure des douleurs et des pertes subies. On a encore aujourd'hui des monuments morts dans tous les villages français. Mais d'un autre côté, ce n'était pas faire preuve de sagesse que de s'abandonner à ce sentiment, aussi compréhensible soit-il, Johann Japoutot.
La justice et la paix ne sont pas la vengeance, ni une cour pénale, ni une cour d'assises. Et il y a eu cette confusion au plus haut niveau, hein, au niveau de Clémenceau et de son cabinet, encore une fois, Mandel, Tardieu et tous les conseillers qui vont devenir de très grands ministres, voire présidents du Conseil par la suite, qui sont virulemment germanophobes. Mais on peut effectivement expliquer cela et on le voit dans le différentiel qu'il peut y avoir entre la position française, très dure, voire radicale, jusqu'à la l'extinction de l'Allemagne, hein, c'est le projet de Clemenceau, et la position britannique ou américaine, des Britanniques et des Américains, qui ont été évidemment beaucoup moins touchés dans leur chair, dans leur territoire, dans leur patrimoine, que des départements français qui ont été ravagés par la guerre, et qui sont tentés, aussi pour cette raison, par une position plus tempérée, plus douce, plus accommodante vis-à-vis de l'Allemagne, et au fond, beaucoup plus conforme aux normes du supérieur, transcendante du droit international.
Oui, mais alors, il y a aussi une légende qui s'est propagée en Allemagne au lendemain de l'armistice et du traité de Versailles, et elle a contribué à affaiblir Weimar, c'est le coup de poignard dans le dos. Alors, d'où cela est-il venu, ce coup de poignard dans le dos? Qui l'a dit le premier? Ça voulait dire quoi exactement?
Alors, le coup de poignard dans le dos, c'est ce mythe selon lequel l'armée allemande était sur le point de gagner à l'automne 1918 et qu'elle a été poignardée par les syndicalistes, les communistes, les socialistes, c'est-à-dire les juifs, puisqu'il y a cette synthèse judéo-bolchévique qui est créée, d'autant plus qu'en 1918, on est un an après 1917, c'est-à-dire la révolution bolchévique. C'est un mensonge qui est diffusé par l'état-major. En l'occurrence par Paul von Hindenburg, qui va jouer un rôle tragique par la suite. Hindenburg, qui est soucieux de son honneur en permanence, de sa légende, et qui veut faire accroire qu'il, le génie militaire qu'il était, allait gagner la guerre, et que naturellement c'est une traîtrise qu'il a abattue. Ça réactive un vieux mythologème allemand, hein. C'est évidemment les Nibelungen, c'est la légende de Siegfried, qui, invincible sauf à un endroit de son omoplate, a été poignardé dans le dos, en l'occurrence visé par un javelot, par le traître Hagen, dans la légende des Nibelungen. Donc c'est une vieille obsession allemande qui rejoint également l'obsession obsidionale d'un territoire qui serait ouvert à tous les vents, au cœur de l'Europe, propice à toutes les invasions extérieures et également victime régulière de cinquième colonne intérieure. Alors, les cinquième colonnes en Allemagne, c'est généralement les catholiques qui sont jugés ultramontains et dépendants d'une souveraineté extérieure, celle du Saint-Siège, celle du Vatican, mais aussi les juifs depuis le 19e siècle, puisque au 19e siècle, le vieil antisémitisme européen a été recodé dans les termes de la biologie et du racisme contemporain en Allemagne, et a servi, un peu comme partout en Europe, d'explication commode pour tous les traumatismes contemporains de sociétés qui étaient plus qu'en mutation, qui étaient en convulsion permanente, sociale, géographique, économique et culturelle. Et on a vu ça en France, on a vu ça ailleurs, et l'armée allemande, d'ailleurs, en 1916, soucieuse de se couvrir, parce qu'en 1916, les choses tournaient très mal déjà, l'armée allemande avait diligenté un inventaire, une sorte de comptage des juifs présents au front. Eine Judenzählung. Et les résultats de ce comptage sont que les juifs sont surreprésentés au front. Les juifs allemands sont surreprésentés dans l'armée allemande. Ce qui n'est pas très étonnant, puisque de fait, les juifs allemands sont patriotes, comme les juifs français sont patriotes, et ils ont plutôt tendance à vouloir le prouver à des gens qui mettent en cause leur fidélité, leur patriotisme, leur identité allemande ou française ou que sais-je. Eh bien, l'armée allemande, c'est-à-dire les mêmes, hein, Ludendorff, Hindenburg, a tenu secret les résultats de cette évaluation-là. Pour garder dans sa manche, cet atout qui serait celui de la trahison juive. Alors que les chiffres montraient exactement le contraire. Les juifs sont surreprésentés au front. Ils se battent plus, ils sont plus en première ligne, contrairement à ces rumeurs qui les qualifient de planqués, de profiteurs de guerre, de lâches, etc., etc. C'est tout le contraire.
Et vous parlez du rôle tragique de Hindenburg, Johann Chapoutot, parce que vous le dites, vous le montrez très bien dans votre livre, comme d'ailleurs Jean-Paul Bled dans le sien, ce ne sont pas les élections qui ont porté Hitler au pouvoir, c'est Hindenburg appuyé sur ce que vous appelez les barons. Oui. Alors, quel est le motif de la décision prise par Hindenburg, qui méprisait Hitler, qui considérait que c'était un caporal autrichien, un caporal bohémien? Alors, est-ce que l'antisémitisme a joué? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on lui fasse ce cadeau royal?
Alors, le premier cadeau terrible, c'est mars 1930, quand la décision est prise de ne plus respecter le résultat des élections, donc de ne plus respecter la logique parlementaire de la constitution de Weimar. En l'occurrence, On dit aux Allemands, on leur signifie qu'ils peuvent bien voter, mais que, in fine, c'est le président qui décide. Un président qui est en position de prééminence constitutionnelle au titre de plusieurs articles, notamment l'article 48 de la Constitution de Weimar. Donc ça, c'est le premier cadeau, puisque quand les nazis vont arriver, ils auront beau jeu de dire « bon, on ne vote plus, après tout, ça fait 3 ans que vous votez pour rien ». Deuxième danger, c'est que on substitue au droit commun l'état d'exception permanent, puisque le gouvernement va gouverner désormais sur fondement d'ordonnances présidentielles. C'est très simple, c'est une feuille à quatre, un encrier, une plume. Et c'est comme cela que le gouvernement va régir l'Allemagne. Ça, c'est les deux énormes cadeaux des irresponsables aux nazis qui n'auront qu'à se couler dans ce moule-là et qui, au fond, auront la partie très aisée à partir de l'hiver 1933. Et cette décision a été prise par ce qu'on appelle la Camarilla. La Camarilla, c'est-à-dire le petit cabinet, le petit entourage composé de gens qui sont tous sauf des lumières. Vous avez le fils Hindenburg, qui est toujours dans les jupes de son père, qui est officier, un officier raté, mais qui a été nommé chef d'état-major particulier du président, et qui est donc au cœur de la vie politique berlinoise. Vous avez un grand propriétaire terrien, qui était déjà d'extrême droite avant 1914, c'est vous dire le niveau de haine antidémocratique de cet homme-là. Vous avez des banquiers, vous avez des industriels, et vous avez le secrétaire général, la présidence du Reich. Et ce petit entourage décide clairement que la démocratie est tolérable si et seulement si c'est la droite qui gagne, c'est-à-dire, en gros, des gens qui défendent leurs intérêts. Et j'insiste sur ces intérêts-là, puisque les intérêts patrimoniaux, fiscaux, successoraux de la famille Hindenburg sont, hélas, sordidement et tragiquement au cœur des décisions prises par Hindenburg et par son fils. Et dans cette mesure-là, il est hors de question de tolérer quoi que ce soit qui ressemble à la gauche au pouvoir. À telle enseigne que la Prusse, qui est gouvernée par les centristes et les sociodémocrates, voit son gouvernement déposé par la force le 20 juillet 1932, puisqu'on ne tolère plus que des sociodémocrates soient au pouvoir nulle part.
Bien, alors maintenant, venons-en à disons, la deuxième partie de notre entretien. C'est un sujet qui est très présent dans votre livre « Les irresponsables », c'est-à-dire quelles leçons doit-on tirer de Weimar ? Quel lien y a-t-il, comme selon votre expression, entre eux et nous, entre 1932 et 2025, Johann Chapoutot?
Il y a des leçons pour tout le monde. Et à commencer, vous le disiez en ouverture, pour la gauche, ça c'est très clair. Dans la nécessité de l'union, de la promotion d'un message à la fois intelligent et positif et désirable, face à des forces qui, en face, s'organise, puisque la thématique de l'union des droites, dont on parle beaucoup, entre extrême droite et droite dite classique ou de gouvernement, est très présente en Allemagne à cette époque. Il y a des leçons pour tout le monde, puisque de fait, et c'est une des choses que je défends dans ce livre, la période du début des années 30 est vraiment matricielle pour nous, puisque nous vivons encore sur des questionnements, sur des solutions, sur des types de politiques publiques qui sont encore les nôtres aujourd'hui. L'austérité versus le keynésianisme, l'exécutif versus le législatif, l'État-providence versus un libéralisme à tout craint qui laisserait tout le monde se débrouiller. Bref, les questions des contemporains qui ont fait face à une crise majeure du libéralisme économique avec la crise de 29 sont encore les nôtres aujourd'hui et nous vivons sur cet héritage-là. Dans cette mesure-là, effectivement, il y a un lien presque ontologique, si vous voulez, consubstantiel entre eux et nous. Et je fais partie de ces histoires, mais je suis pas le seul, qui défendent l'idée que la distinction passé-présent. Bon, après 150 ans de psychanalyse quasiment, on peut acter le fait que cette distinction est bien poreuse et que de fait, nous vivons dans un continuum temporel qui fait que nous sommes bien plus proches d'eux que nous ne le pensons.
Alors, c'est là peut-être que la discussion va vraiment commencer, Johann Chapoutot. Parce que Valéry, c'est une définition ontologique ici, Paul Valéry dit que le présent, c'est ce qui ne s'est jamais présenté jusque-là. Il ajoute ceci, l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas. Vous semblez penser le contraire, notamment par exemple quand vous citez Goebbels, après un discours de Von Papen, pas peine à parler à la radio, un discours qui vient de nos propres idées de A à Z. Autrement dit, il dit la même chose, c'est la droite qui dit la même chose que l'extrême droite. L'extrême droite est au pouvoir en Italie. Oui. Meloni. Enfin, ce qu'on appelle l'extrême droite. Ce n'est pas Mussolini. Donc, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, il y a peu de chances que ce soit Hitler. Et j'ajoute ceci. Il y a eu un grand débat au moment des législatives. Édouard Philippe, par exemple, a dit « Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise, les extrêmes. » Il a été très critiqué, notamment dans le journal Le Monde, au regard de la gravité de la situation, ses finasseries ou manquements sont impardonnables. L'extrême droite arrive aux portes du pouvoir. 200 philosophes ont solennellement mis en garde, dans le même journal, contre l'accession de l'extrême droite au pouvoir, 200 philosophes qui se disent instruits des expériences désastreuses du XXe siècle. Alors que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ?
C'est intéressant cette citation d'Edouard Philippe parce que c'est exactement ce que disait von Papen au fond à l'été 1932. Lisez, il y a deux extrêmes qui sont aussi évitables l'un que l'autre, mais en ajoutant toujours que certains étaient plus extrêmes que d'autres et que le véritable extrême, c'est la gauche. Alors, les communistes, ça va de soi, hein, le stalinien, très bien, mais aussi les sociodémocrates que l'on déposait par la force au cœur de Berlin le 20 juillet 1932 dans ce coup d'État en Prusse. Et par ailleurs, von Papen, qui répudier les extrêmes, c'est un vocabulaire qui se fixe déjà à cette époque-là. Von Papen dînait volontiers avec les nazis, de la même manière, je crois qu'Edouard Philippe dîne aussi régulièrement, de temps en temps, avec Marine Le Pen. Donc c'est très très dangereux, parce que le calcul de la droite, à cette époque comme aujourd'hui, c'est un calcul purement statique et arithmétique, qui consiste à ajouter des pourcentages, à se dire qu'au fond, la violence de l'extrême droite, elle se dirige toujours contre des ennemis communs, les juifs, ou les arabes, ou les syndicalistes, ou les sociodémocrates, ou les communistes. Mais c'est une violence qui est dynamique, celle de l'extrême droite, et c'est une dynamique qui revient dans la figure de la droite assez violemment.
Mais attendez quand même, il y a eu ce Front républicain, et que s'est-il passé ? L'antisémitisme sévit aujourd'hui au Palais Bourbon. L'antisémitisme, il ne vient pas de l'extrême droite, il vient de la France insoumise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui dit que Jérôme Guedje tourne, s'agite autour du piquet ou le retient à la laisse de ses adhésions. Et qu'arrive-t-il d'ailleurs à Jérôme Guedje ? Il est chassé des manifestations au cri de sales sionistes, sionistes dégage, sionistes génocidaires. Voilà ce qui lui arrive. Et il y a aujourd'hui, en effet, des agressions antisémites qui vont parfois jusqu'à l'assassinat au nom des Palestiniens, c'est-à-dire, ce n'est pas une race maudite que l'on veut pointer du doigt, ce sont de maudits racistes. C'est donc un paysage tout à fait différent, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'étonnant à vouloir se coaliser au nom de ce qui s'est passé, au nom d'un risque de récidive, pour reprendre une expression Michael Fessel que vous citez dans votre livre. Donc au nom de tout cela, et on s'aveugle à la réalité pourtant terrible de notre temps. Le présent, c'est ce qui n'est jamais présenté jusque-là, disait Valérie.
Joanne Chapoutou. Vous faites référence à cet assassinat atroce qui a eu lieu à Washington.
À Washington.
Deux citoyens israéliens qui ont été battus, assassinés.
Mais le criminel ne savait pas. Il sortait du musée juif. Il ne savait pas qu'ils étaient israéliens.
D'accord.
Et il a crié « Libérer la Palestine
». Alors, on aurait du mal à relier effectivement cet assassinat-là à ce qu'il se passe en France, d'une part. Et d'autre part, quand vous dites que l'antisémitisme vient pas de l'extrême droite, il me semble qu'il y a eu toute une série de révélations dans Le Monde et dans Mediapart cette semaine sur Caroline Parmentier, qui est la plus proche conseillère de Marine Le Pen, dont le passé de rédactrice en chef de Présent, les propos sur le lobby juif et autres aménités montrent bien que il faut quand même revenir à des repères et à l'histoire et à la logique politique. L'antisémitisme est partie intégrante de cette culture de l'extrême droite qui vise toujours une altérité, qui vise toujours un bouc émissaire, qui vise toujours quelque chose d'allogène que l'on doit extirper du sol français. Et on a bien vu que dans la campagne des législatives, les journalistes de Radio France, de France 3, les journalistes locaux, régionaux ont fait cet effort d'aller voir un petit peu les profils des différents candidats du RN. C'était une tératologie politique, c'était atroce, entre les casquettes nazies, les propos antisémites, les propos homophobes, racistes, enfin, et puis là, c'est confirmé tous les jours, si vous voulez. Vous ne trouvez pas cela à gauche, vous ne le trouvez pas.
Alors, ce que vous trouvez à gauche, c'est des propos assénés, non par des sous-fifres ou des militants, mais par des leaders.
Là, on parle de candidats aux législatives et on parle également de la plus proche conseillère de Marine Le Pen.
Mais moi, je vous parlerai, Joanne Chapoutot, de Rima Hassan. Jean-Luc Mélenchon vient de dire aux jeunes filles, il a envoyé un message. Jeune fille, essayez quand vous serez grande de devenir Rima Hassan. Elle a quand même déclaré que les soldats israéliens dressaient des chiens policiers à violer les prisonniers palestiniens, entre autres gracieusetés. Mais surtout, il y a une analogie qui fonctionne beaucoup aujourd'hui et qui nous renvoie justement aux années 30 et au risque des récidives. C'est l'analogie entre l'antisémitisme d'hier et l'islamophobie d'aujourd'hui. C'est ça que l'on entend de plus en plus. J'ai par exemple le livre de Joanne Chapoutot, dans l'Europe contemporaine. Joanne Chapoutot. Ah, me voilà idiot. J'ai le livre La fin de la modernité juive de Enzo Traverso, et il dit, dans l'Europe contemporaine, l'islamophobie joue le rôle qui fut jadis celui de l'antisémitisme, le portrait de l'arabo-musulman, brossé par la xénophobie contemporaine, ne diffère pas beaucoup de celui du juif construit par l'antisémitisme au début du XXe siècle. Et donc, encore une fois, aveuglé par le risque de récidive, oubliant que l'histoire est la science des choses qui ne se répètent pas, eh bien, on ne veut pas voir la présence en France, aussi bien qu'aux États-Unis, d'un antisémitisme islamiste, puisque effectivement, on voudrait que le musulman ait succédé aux juifs dans la position de l'opprimé et de la victime, alors que le juif, lui, serait passé du mauvais côté, du côté des dominants, du fait de la politique de Benjamin Netanyahou. Joanne Chapoutot.
Alors, l'antisémitisme qui menace de prendre le pouvoir en France comme ailleurs, en Europe et aux États-Unis, entre Musk qui fait des saluts nazis, Trump qui a des sympathies antisémites, etc., c'est le RN en France. Ce n'est pas la gauche. Ensuite, la citation que vous avez prononcée d'Enzo Traverso, ça fait l'objet de débats parmi les praticiens des sciences sociales et de l'histoire, parce que est-il possible de comparer au fond un antisémitisme qui a 1500 ans d'âge en Occident, qui a été thématisé, recodé religieusement, biologiquement, juridiquement, etc., et qui est au fond une tradition de très long terme, dont nous sommes tous, au fond, à la fois tributaires et victimes. Parce que je pense que à gauche, on peut faire aussi son mea culpa. Moi, j'avais réagi avec une quarantaine d'autres historiens et praticiens des sciences sociales contre les accusations d'antisémitisme adressées à la gauche. Et au fond, je me dis que on aurait pu acter le fait que, malgré qu'on en ait, et quoi qu'il en soit, nous avons tous grandi là-dedans. Ça nous fait horreur. C'est quelque chose, c'est la chose la plus infamante qui puisse être opposée à quelqu'un de gauche. Vous êtes antisémite, ça et pédocriminel, on fait pas mieux, si vous voulez, dans l'insulte. Et donc on a réagi vivement, on a eu raison, je pense, mais on aurait peut-être encore plus raison de se dire qu'il faut acter le fait que, quoi qu'il en soit, malgré tous les efforts, il y a 1500 ans de structures mentales qui sont là, qui diffusent de manière méphitique des fumées immondes, dont nous sommes tous tributaires, à droite, au centre comme à gauche. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que lorsque vous parlez du présent, la position de Paul Valéry est intéressante, mais elle n'est pas unique, au fond, ou elle n'est pas la seule dans le domaine des sciences sociales. Il y a effectivement la définition que vous donnez avec cet art littéraire de Paul Valéry, qui est aussi le vôtre, hein, le présent, c'est ce qui ne s'est jamais présenté. Ça fait penser, au fond, à la définition de l'événement. L'événement comme surgissement de quelque chose ex venire, hein, qui nous vient de quelque chose d'ailleurs et qui se présente à nous, de fait. Au fond, ce que dit Valéry, la définition de Valéry, c'est moins celle du présent que celle de l'événement, je trouve. Et la manière que nous avons beaucoup, hein, de faire de l'histoire, c'est aussi de raisonner par comparaison, en permanence. Toute histoire est contemporaine, hein, je cite Benedetto Croce, puisque nous adressons au passé le questionnaire du présent. Nous adressons au passé des questions liées à l'environnement, à l'histoire des femmes, etc., qui n'étaient pas celles de nos aînés. Donc, c'est une banalité de le dire, mais il faut le rappeler, toute histoire est contemporaine. Et à partir de ce moment-là, nous raisonnons tous par comparaison et par analogie. Et c'est cette analogie de structure que je propose en notant qu'il y a des équivalents fonctionnels entre le début des années 30 et aujourd'hui. C'est une proposition historienne, heuristique, on va dire, voire herméneutique, qui se défend autant, je pense, que la césure radicale ou la proposition de césure ontologique, au fond, que propose Valéry entre le présent et le passé, qui n'est pas celle de Marc Bloch, par exemple, à la même époque.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison, Jeanne Chapoutot. Mais d'un autre côté, vous parlez d'un antisémitisme ancré depuis 1500 ans. Mais l'antisémitisme n'a pas toujours le même visage. Il faut constater aujourd'hui qu'il parle sous nos climats et dans nos campus la langue de l'antiracisme. Quant à Normal Sup, on dit sioniste hors de nos facs, c'est les juifs qu'on désigne. Et en plus, c'est la mémoire qu'on mobilise. Et ça, c'est très intéressant. On a toujours eu peur de l'oubli. Mais quand vous dites Treblinka, Varsovie et aujourd'hui Gaza, vous mobilisez la mémoire pour accuser les juifs de génocide. Il y a d'autres moyens, me semble-t-il, de critiquer la guerre que mène Israël à Gaza, que cette analogie, parce qu'encore une fois, à Varsovie, les combattants n'avaient pas d'otages et ils n'avaient pas le choix de déposer les armes. Donc cette analogie ne fonctionne pas, mais on voit le retournement qui est à l'œuvre, et donc on voit comment peut être détourné, effectivement, l'enseignement de l'histoire. Alors, Joanne Chapoutot.
Alors, je suis professeur des universités, j'enseigne à la Sorbonne et je fréquente des étudiants de la Sorbonne, bien sûr, mais aussi des Normaliens qui viennent chez nous pour suivre des cours, des étudiants de Sciences Po, puisque nous sommes en convention avec Sciences Po, et je vois leur émotion et leur engagement. Je peux vous dire que je n'ai jamais vu une once d'antisémitisme chez ces étudiants-là. C'est quelque chose qui les révulse, comme ça me révulse moi, et parce que c'est infamant pour l'intelligence. Ne serait-ce que de ce point de vue-là. Ensuite, on peut parler de l'émotion, de la sensibilité. Mais ne serait-ce que de ce point de vue-là, c'est antithétique et c'est orthogonal à notre, comment dire, à notre idéal régulateur, pour parler comme Kant, qui est celui de la recta ratio, qui est celui de la raison. On ne peut pas être antisémite, ça n'existe pas dans un, dans un univers de réflexion intellectuelle. Ensuite, et je redis ce que je disais tout à l'heure, on a tous à faire sincèrement notre examen de conscience. Cela dit, il ne se fait pas sous les balles de CNews. Il ne se fait pas sous l'avalanche des insultes en permanence qui viserait à faire muter le stigmate et à faire porter sur la gauche, qui est insensée, la responsabilité de l'antisémitisme, qui est encore une fois la tradition immémoriale de l'extrême droite, en tout cas depuis la Révolution française.
Alors, les balles de CNews. Nous sommes à France Culture ici, je vous rassure. Mais justement, ça m'évoque aussi une autre analogie que vous faites entre la situation, entre ce qui s'est passé à Weimar et aujourd'hui, eux et nous. Il y avait un mania de la presse qui a joué un rôle, effectivement, dans l'accession, Hugenberg, c'est ça son nom, de Hitler au pouvoir. Et vous dites, aujourd'hui, je vous cite dans un entretien, la quasi-totalité du paysage informationnel français est possédée par des vendeurs d'armes ou des partisans de la destruction de l'État social et de la régénération de la nation. J'étais quand même étonné. Qu'est-ce que vous dites là ? la quasi-totalité. Il y a le Nouvel Obs, il y a Le Monde, il y a Libération, il y a Télérama, qui sont, de ce point de vue-là, pas du tout dans le même registre que CNews. Il y a le service public de la télévision et de la radio, France Info, France Culture, France Inter, France Inter, France 2, La 5, BFM, LCI, échappent aussi bien à Dassault qu'à Bolloré. Donc il me semble que le paysage informationnel, aujourd'hui, est beaucoup plus pluraliste que vous ne le dites. Et par pure provocation, je me demande si Europe 1 et CNews ne sont pas plutôt isolés dans ce paysage informationnel. Donc, alors, est-ce que cette comparaison est valable aujourd'hui, toujours, Joanne Chapoutot ?
Alors oui, oui, je le pense, puisque quand on voit d'une part les audiences des médias que vous évoquiez, et aussi l'effet de contagion, voire de métastase qu'il peut y avoir sur les autres médias qui se mettent à faire du CNews avec un recul du travail journalistique, un recul du travail de reportage et un recul du travail d'enquête au profit de faux débats, enfin de discussions, de bavasseries entre gens qui ne sont pas toujours compétents et qu'on met sur un plateau, parce que ça ne coûte rien ça, de faire bavasser des gens qui n'ont pas travaillé et qui n'ont rien à dire, mais qui le diront avec force. C'est un modèle économique inspiré de Fox News et de CNews, et c'est pour ça que je fais ce rapprochement entre le docteur Hugenberg et ses avatars contemporains, Berlusconi, Murdoch, Bolloré, qui sont des gens qui ont mis au service d'une idéologie politique leur fortune et leur réseau. Alors j'aurais dû préciser dans la citation que vous évoquiez, peut-être les médias privés en l'occurrence. Le service public, qui n'est pas toujours indemne de contamination, de ce type de modèle-là, de ce type de facilité-là, échappe effectivement juridiquement à la mainmise de milliardaires. Mais j'observe que entre 1943 et 1944, le Conseil national de la résistance, sur l'héritage duquel nous vivons aujourd'hui, la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, l'État fort en France, etc., ce Conseil national de la résistance avait comme chapitre la défense de la pluralité de la presse, comme on disait à l'époque, on ne disait pas encore médias, puisque l'analyse était faite que la démocratie n'est possible et viable que si et seulement si vous avez une école qui fait son office de diffusion des lumières, d'alphabétisation, de lecture et d'écriture, de maîtrise de l'écrit, ce qui est menacé aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un de vos combats, je crois, et deuxièmement, une presse qui soit libre, indépendante et qui permette quelque chose comme la spécification des faits.
Oui, alors justement, c'est très intéressant. Et en effet, les journalistes sont les vérités factuelles. Et les philosophes peuvent être aveuglés par les vérités de raison. Considérer que, d'une certaine manière, le réel est rationnel et donc intégrer tous les faits dans un grand récit. Et le grand récit d'aujourd'hui, habité par la mémoire de Weimar, Joanne Chapoutot, c'est le grand récit antifasciste et antiraciste. Et tous les faits qui semblent s'en éloigner ou le contester sont parfois édulcorés, marginalisés, voire occultés. Et l'une des raisons du succès de CNews, c'est que ces faits y apparaissent et on ne les lirait pas nécessairement dans le journal Le Monde. C'est peut-être aussi qu'il faut regarder les choses en face et considérer que la grande question philosophique de notre temps, Joanne Chapoutot, c'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je suis parfaitement d'accord, d'autant plus à une époque qu'on a qualifié de post-vérité. Mais quand vous dites que le grand récit de notre temps, c'est l'antifascisme et l'antiracisme, que j'aimerais que vous ayez raison, que j'aimerais que ce soit vrai, je ne le constate absolument pas dès que j'ouvre ma radio ou ma télévision, dès que je constate ce qui est dit en permanence sur l'État social, sur les parasites, sur l'assistanat, sur l'immigration, sur etc. Je ne constate vraiment pas que nous soyons dans un univers mental d'antifascisme et d'antiracisme. Et j'aimerais vraiment que vous ayez raison et qu'on puisse, de concert, vous et moi, fustiger la domination idéologique de la gauche.
Je ne dis pas de la gauche, je dis d'un récit antiraciste qui consiste à penser, par exemple, que la dénonciation de l'entrisme islamique relève de l'islamophobie, que la loi séparatisme relève de l'islamophobie, et donc il est très difficile de s'accorder sur les faits, alors que la gauche danoise a réagi tout à fait autrement sur les questions migratoires. Mais j'en termine avec cette dernière question. Les irresponsables d'aujourd'hui, c'est qui ? Est-ce que c'est au premier chef le président de la République ? Joanne Chapoutot.
Alors, beaucoup l'ont dit, dans des termes d'ailleurs moins choisis hein, que moi, y compris des journalistes, des responsables politiques qui ont parlé de psychopathologie, de perversion narcissique, de taré, etc. Bon, moi je n'emploie pas ce vocabulaire-là, mais je constate de fait que, et je reprends les analyses de mon collègue Pierre Cernat, historien de la Révolution française à la Sorbonne, qui a thématisé, qui a créé ce concept de l'extrême-centre, et qui montre bien que ce centrisme supposé et supposément modéré, humaniste et tempéré, est en fait extrémiste parce qu'il est très volontiers violent dès qu'on touche à ses intérêts politiques, patrimoniaux, financiers, fiscaux, etc. Il fait tirer sur la foule. Alors, avec Napoléon Bonaparte sous le directoire, c'était au canon dans les rues de Paris. Désormais, c'est plutôt au LBD, mais le LBD peut tuer. Et cet extrême-centre partage avec l'extrême droite beaucoup de choses. Le darwinisme social, l'idée qu'il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien, le mépris de l'universalisme républicain, le mépris des services publics, la volonté de détruire pas à pas et de monétiser au fond les services publics, l'école, l'hôpital, etc. Et que la pente vers l'extrême droite est nette et elle est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Et c'est de fait, en suivant les enseignements d'un Pierre Cernat ou d'autres, que j'ai décidé de moi qui avais cette comparaison avec 1932 en tête, d'être un peu sérieux et de refaire le travail à la fois de lecture de mes collègues historiens et de retour aux sources, aux archives.
Ah, il y aurait beaucoup de choses à discuter encore, Joanne Chapoutot. Mais je vous laisse le dernier mot. Et je rappelle le titre de votre livre, Les Irresponsables, qui a porté Hitler au pouvoir. Il est publié aux éditions Gallimard. Je rappelle aussi le titre du livre de Jean-Paul Bell, La République de Weimar, publié chez Perrin. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amard, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Patrick Muller. La semaine prochaine, émission rapportée L'aide active à mourir. Mes invités seront Philippe Juvin et Denis Labelle. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.